Voilà, donc on a repris l'étude, le parcours du livre, deuxième livre des rois. On a repris, Pascal a démarré donc un nouveau cycle, qui est le cycle d'Élysée. C'est la suite, hein, c'est la suite du livre des rois. Et donc la dernière fois, on a vu, d'ailleurs ce tableau nous le rappelle, c'était le titre, c'est « Les chariots de feu ». On a vu eh bien, comment, sur un chariot de feu, Élysée, donc le serviteur d'Élie, a été, Élie a été enlevé sur un chariot de feu et son serviteur Élysée eh bien, a été, est devenu son successeur. Et vous vous rappelez, il avait fait une demande osée. Il avait dit, il avait demandé qu'il reçoive une double part de l'esprit qu'avait reçu Élie. Et cela lui a été accordé. On en a reparlé mercredi dernier. Une double portion de l'esprit de Dieu qui reposait donc sur Élisée, le successeur d'Élie. Donc on s'en est arrêté donc au chapitre 2. Et je vais reprendre au chapitre 3. Au chapitre 3. Et je lirai tout le chapitre. Deux rois, donc chapitre 3. Deuxième livre des rois, chapitre 3. Joram, je vais vous attendre, j'entends les pages se tourner. Deux rois, deuxième livre des rois, chapitre 3. Donc c'est après un roi. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna à 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa le monument de Baal que son père avait fait, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en écarta pas. Mécha, roi de Moab, était éleveur. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et envoya dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Iras-tu avec moi au combat contre Moab ?» Josaphat répondit, « J'y monterai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Il dit encore, « Par quel chemin monterons-nous ? » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partit. Ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée, mais il n'y eut plus d'eau pour le camp ni pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit « Hélas, l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui... » Alors, excusez-moi. « Par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat dit « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël « Qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Alors le roi d'Israël lui dit « Non, car l'Éternel a convoqué ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. » Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans ce vallon des fosses, car ainsi parle l'Éternel. » Vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous causerez du dommage avec des pierres à tous les meilleurs terrains. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les combattre, on mobilisa tous ceux en âge de porter des armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au butin. Ils arrivèrent au camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui s'enfuit devant eux. Ils frappèrent le pays, ils frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun sa pierre dans tous les meilleurs terrains et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et firent tomber tous les bons arbres. Il ne resta que les pierres de Kir Haréchet. Et les hommes armés de frondes l'encerclèrent et la frappèrent. Verset 26, le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne le purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai intitulé mon message « Vainqueur avec Dieu ». Vainqueur avec Dieu. Et ma vérité, c'est que pour vaincre le mal, il nous faut faire alliance avec Dieu. C'est simple. Et pourtant, pour vaincre le mal, il nous faut faire alliance avec Dieu. Et je verrai cela donc en trois parties, trois points. Premièrement, nous verrons les mauvaises alliances. Les mauvaises alliances ou les conséquences de se confier en l'homme au lieu de se confier en Dieu. Deuxièmement, nous verrons la bonne alliance cette fois, celle avec Dieu de grâce qui reste fidèle malgré l'infidélité de l'homme. Et troisièmement, nous verrons le sacrifice suffisant qui nous donne la victoire sur le mal. Donc mon premier point, voyons les mauvaises alliances. Les mauvaises alliances avec les conséquences. Les conséquences de se confier en l'homme plutôt que de se confier en Dieu. Donc, il est donc question ici, vous vous rappelez, il y a les deux royaumes, le royaume du Nord qui est le royaume d'Israël et le royaume du Sud qui est le royaume de Juda, où est Jérusalem et le culte du vrai Dieu. Il y avait un schisme, une séparation. Et donc Yoram, il est le fils d'Akab, ce mauvais roi. Yoram devient roi sur Israël, donc le royaume du Nord, en Samarie. Pensez royaume du Nord, Samarie. Et lui, il fut un mauvais roi, nous dit le texte, qui marcha dans la voie idolâtre de Jéroboam. Jéroboam, c'est celui qui avait fait ériger un veau d'or. Et donc, il avait entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Mais il y a toutefois un petit mieux, quand même. Pourquoi ? Eh bien, il renversa les autels, vous savez, les lieux où on fait les sacrifices. Il renversa les autels de Baal qu'avait érigé son père, Akab, et sa mère, Jézabel. Donc, il y avait quand même un petit mieux, un mieux contre l'idolâtrie. Akab, donc le père de Yoram, meurt, et à la mort d'Akab, eh bien, le roi de Moab se révolte contre Yoram. Et il était assujetti à Yoram. Il lui, au verset 5, il payait il se révolte donc contre Yoram, contre le roi d'Israël. Et Moab, eh bien, il payait un lourd tribut au roi d'Israël sur son troupeau. C'était des éleveurs, il payait un lourd tribut, et cela remontait au roi David, donc avant le schisme entre royaume du Nord et royaume du Sud. Vous voyez ça en 1 Chronique 18, verset 2, déjà depuis David. Et puis donc Moab se révolte contre Israël, et c'était déjà dit au début du deuxième livre des Rois, chapitre 1, verset 1, je vous le lis, Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Donc c'est la deuxième fois, ici, qu'il est fait mention de cette révolte, ce qui veut dire que cette révolte, eh bien, elle a beaucoup à nous apprendre. C'est donc un événement important. Eh bien donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque Moab se révolte contre Israël, Yoram, le roi d'Israël, passe en revue Israël, et il va demander de l'aide. À qui est-ce qu'il va demander de l'aide? Pas à Dieu. Il va demander de l'aide au roi de Juda. Il va chercher à faire alliance avec le roi du royaume du Sud, qui est Josaphat. Josaphat en qui se trouvaient des bonnes choses. Il va lui demander donc de l'aider à attaquer Moab. Et ça nous rappelle ce récit à un autre récit, parce que ce sont exactement quasiment les mêmes termes. À la demande de Yoram de faire alliance avec lui, Josaphat va répondre exactement la même réponse qu'il avait répondu à Akab, son père, lorsque celui-ci lui avait demandé de faire alliance avec lui pour combattre les Syriens. La même réponse. Cette réponse, qui est au verset 7, on la retrouve en 1 roi 22, verset 4, celle qu'il avait donnée à Akab. Et voici ce qu'il redit cette fois à Yoram, son fils, la réponse de Josaphat. « J'y montrerai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » C'est la même réponse, mot pour mot. Alors, est-ce que Josaphat avait compris la leçon qu'il avait eue avec Akab? Parce que ça s'était mal passé avec Akab. Eh bien non, non. Il n'avait pas tiré la leçon. Puisque lorsque Akab a combattu les Syriens avec l'aide de Josaphat, alors Josaphat s'en est tiré miraculeusement. Mais Akab, lui, il y a laissé sa vie. Le roi d'Israël, Akab, y a laissé sa vie. Ça ne s'était pas bien passé pour lui. Et Josaphat s'en était tiré miraculeusement. Est-ce qu'il avait tiré les leçons? Non. Alors, vous trouverez le récit avec Akab dans 1 roi 22, 30, 29 à 37. Il y a beaucoup de similitudes. Non, Josaphat n'a pas tiré les leçons de sa première expérience avec Akab. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec Akab et qu'il n'a pas fait non plus avec Yoram? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait? Il n'a pas consulté l'Éternel. Il n'a pas consulté l'Éternel, il a répondu trop vite. Il a répondu trop vite à la demande de Yoram, comme il avait répondu trop vite à la réponse d'Akab. Alors, comment est-ce qu'on peut voir cette deuxième expérience de Yoram avec, de Josaphat avec Yoram cette fois? Eh bien, moi, je le vois comme si Josaphat devait repasser un examen. Et vous savez, la vie chrétienne, je crois qu'elle est faite d'examens. Quand on échoue, on n'est pas mis au placard avec Dieu. Non. Je crois que lorsqu'on échoue à un examen, Dieu parfois permet dans les circonstances qu'on revive des circonstances similaires pour qu'on puisse, pour qu'on grandisse avec lui, pour qu'on ait la victoire, qu'on apprenne de nos échecs. Nos échecs ne sont pas faits pour nous écraser. On doit apprendre de nos échecs pour réussir au prochain examen. Et je vois effectivement cette deuxième expérience, voyons-le comme une nouvelle épreuve, un nouvel examen que Dieu met devant Josaphat pour que cette fois il réussisse. C'est une grâce du Seigneur. Quand on voit des épreuves se répéter, voyons-les comme des grâces pour que nous sachions les affronter avec l'aide du Seigneur et pour avoir la victoire. Une autre leçon, c'est que attention à ne pas répondre trop vite quand on est sollicité. Parfois, vous pouvez vous trouver en face de quelqu'un, il vous demande quelque chose pas simple et qui engage beaucoup, et il vous demande une réponse ici et maintenant sur le champ. Attention, vous avez le droit de temporiser, de réfléchir. Attends un peu, je te donnerai une réponse plus tard. Attention. Et Josaphat, là, eh bien, visiblement, il n'a pas tiré les leçons de sa première expérience avec Akab, puisqu'il a répondu trop vite. Il n'a pas consulté l'Éternel. Ne cédons pas à la pression. On a le droit de temporiser pour prendre le temps de réfléchir et de prier face à une sollicitation. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Voilà donc que les deux rois, donc Josaphat et Yoram, passent par le chemin du désert d'Édom. Et au passage, eh bien, ils vont faire alliance avec un troisième roi qui est le roi d'Édom. Et en fait, c'est aussi pour arriver sur Moab par le sud. Donc trois rois qui ont fait alliance. Sauf que, au bout de 7 jours, sérieux problème, voilà que l'eau se met à manquer. Et là, Yoram, le roi d'Israël, il montre bien son vrai visage. Il est défaitiste, il ne connaît pas Dieu. Il est défaitiste et il accuse Dieu de vouloir livrer les trois rois, Israël, Juda et Édom, aux mains du roi de Moab. Verset 10. Il accuse Dieu. Mais Josaphat, et c'est là qu'il progresse, il ne voit pas les choses ainsi. Josaphat ne voit pas Dieu ainsi. Enfin, après 7 jours, il a fallu cette sécheresse pour qu'on se réveille. Mais au fait, on n'a pas consulté l'Éternel dans tout ça. Et Josaphat pose alors la même question, c'est la même question qu'il avait posée avec Akab quand il avait fait alliance avec lui. Vous la retrouvez en 1 roi 22 verset 7. Josaphat pose la même question. Donc il s'est rappelé de ce récit. Verset 11, c'est la même question que dans 1 roi 22 7 avec Akab. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? Ça veut dire qu'il n'en restait plus beaucoup. Hein. Autre enseignement pour nous, est-ce que nous faisons appel à l'Éternel seulement quand les choses commencent à aller mal ? Lorsque les ennuis commencent, au lieu de le consulter avant toute décision. Au lieu de le consulter avant toute décision. Josaphat, quand même, il avait oublié, mais au fait, il est peut-être temps de consulter l'Éternel. Et puis un serviteur, à la question de Josaphat, un serviteur répond, il y a ici Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat, qui avait connu Élie, hein, eh bien, il reconnaît que la parole de Dieu est avec Élisée, son serviteur. Il le dit, hein, la parole de Dieu est avec Élisée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les trois rois vont aller chercher Élisée. Et une fois devant Élisée, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise devant cette union des trois rois. Il voit Joram, le roi d'Israël. Et dans un premier temps, il ne fait pas de détour, hein, Élisée. Eh bien, il repousse Joram, le roi d'Israël. Il le repousse. Sans le ménager, il lui demande d'aller vers les prophètes idolâtres de son père Akab et de sa mère Jézabel. Retourne vers les prophètes de ton père et de ta mère, prophètes idolâtres. Et vous avez remarqué, Joram, il ne va pas mentionner ses idoles, les idoles de son père et de sa mère, qui sont aussi les siennes. Mais il va mentionner l'Éternel, mais pas dans le bon sens. Il mentionne encore l'Éternel, toujours pour l'accuser. Il refait la même accusation qu'au verset 10. Au verset 13, il dit, à Élisée cette fois, « L'Éternel a appelé ses trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » C'est fort quand même. Il accuse Dieu. Joram accuse Dieu alors qu'il est lui-même responsable de l'initiative de partir en guerre contre Moab. Lorsqu'il nous arrive des problèmes, ça peut nous arriver, parce que ça nous arrive d'accuser Dieu. Pourquoi tu permets ça encore, Seigneur ? Mais attention, de ne pas accuser Dieu des maux dont nous sommes nous-mêmes responsables. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est responsable toujours des malheurs qui nous arrivent, bien sûr, d'autres aussi peuvent causer du tort. Mais attention à ne pas accuser Dieu des maux dont nous sommes responsables au lieu de nous en repentir. Là, clairement, Joram, il accusait Dieu, alors que c'était lui qui avait pris l'initiative de partir en guerre. Et je vous lirai Proverbes, chapitre 19, verset 3. Qui nous met en garde ? La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. C'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Joram, très clairement, en accusant Dieu, il se trompe sur Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Moab s'est révolté contre Israël. Est-ce que la révolte de Moab n'est-elle pas la conséquence de son idolâtrie ? On peut y voir son idolâtrie s'est retournée contre Joram. Elle s'est retournée contre lui, parce que l'homme récolte ce qu'il sème. Un verset le dit, Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Est-ce que là, Joram n'est pas en train de récolter les conséquences de son idolâtrie par la révolte de Moab ? Oui, parce que certainement que ouvrir la porte à l'idolâtrie, l'idolâtrie c'est mettre quelqu'un ou quelque chose d'autre à la place de Dieu. Ouvrir la porte à l'idolâtrie, c'est ouvrir la porte aux ennuis. Pourquoi ? Parce que, en se tournant vers les idoles, on se détourne du vrai Dieu et on se prive de la protection du vrai Dieu. C'est un choix. C'est un choix fou. Il ne faut pas s'étonner que les problèmes arrivent suite à l'idolâtrie. Pour autant, est-ce que Dieu va-t-il abandonner son peuple ? La suite du texte va nous le montrer. Et puis aussi, Joram, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait aussi quand il est parti en guerre contre Moab, il n'a pas recherché l'appui de l'Éternel. Il a recherché l'appui des hommes, en l'occurrence de Josaphat, du roi de Juda. Au lieu de rechercher l'appui de l'Éternel, est-ce que pour autant, Dieu va-t-il abandonner son peuple ? Joram se trompe sur Dieu. Il ne le connaît pas. Voyons maintenant mon deuxième point, la bonne alliance cette fois. La bonne alliance, c'est celle avec Dieu, Dieu de grâce, qui reste fidèle malgré l'infidélité de l'homme. Yoram, le roi idolâtre, le roi d'Israël, il pense que la sécheresse, c'est une punition de Dieu. Il pense que c'est une punition de Dieu, mais il accepte quand même de consulter Dieu, de consulter l'Éternel, pas ses idoles, de consulter l'Éternel par Élisée. Élisée qui va finir par lui répondre favorablement. Il n'en avait pas envie, hein, mais il va quand même répondre favorablement. Et il le dit, c'est uniquement par regard pour Josaphat, le roi de Juda. Josaphat qui a servi d'intermédiaire. C'est uniquement pour cela que Élisée va répondre à la question, va répondre à Yoram. Dieu n'abandonne pas son alliance. Il n'abandonne pas son alliance avec le roi de Juda. Josaphat était un roi de Juda. Et Dieu avait fait alliance avec David à Jérusalem, le roi de Juda et ses descendants. Et Josaphat, les rois de Juda, Dieu n'abandonne pas son alliance. Vous avez remarqué, Josaphat, il est le seul roi qui est appelé par son nom au verset 12. Les deux autres, on dit d'eux, le roi de Moab et le roi d'Édom. Je ne sais même pas comment il s'appelle, mais lui, Josaphat, on connaît son nom. Sans la présence de Josaphat, Élisée n'aurait même pas fait attention à Yoram, il ne l'aurait même pas regardé, verset 14. Alors Élisée, eh bien, puisqu'il est sollicité, il va consulter Dieu. Il va demander un joueur de harpe. Dieu lui parle et il prophétise pendant que le musicien joue. Alors moi, ça m'a parlé. Si vous jouez d'un instrument, je vous encourage à progresser, à persévérer, à y prendre du plaisir, parce que c'est une bonne raison de progresser si votre... de progresser dans votre art si c'est pour louer le Seigneur. Progresser. On n'a pas fini de faire des progrès. Élisée, donc il est sous inspiration divine pendant que le musicien joue. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce que l'on fasse des fosses. Des fosses. Beaucoup de fosses. Dans cette vallée. Pourquoi? Parce que plus il y en aura, plus les fosses vont se remplir d'eau. Et ce, ça se remplira d'eau sans le vent ni la pluie. Et les hommes et les bêtes pourront s'y abreuver, nous dit le texte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire confiance au Seigneur. Quand les circonstances sont contraires, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la foi. Comme toujours, le seul moyen de délivrance que Dieu nous propose, c'est la foi. Lui faire confiance. Yoram ne connaissait pas Dieu parce que plus que les vallées qui vont se remplir d'eau, Dieu promet, par l'intermédiaire d'Élisée, la victoire sur Moab. On voit toute la grâce de Dieu. Élisée, donc inspiré par Dieu, il annonce une victoire écrasante sur Moab. L'Éternel livrera Moab entre les mains des trois rois. Il frappera ses villes fortes, il abattra tous les bons arbres, il bouchera leurs sources d'eau, et ils ruineront leurs champs avec des pierres. Et cette prophétie va s'accomplir à la lettre. À la lettre. Ça va s'accomplir quand? Dès le lendemain matin. Le lendemain matin, à quel moment précisément? Lors de la présentation de l'offrande, verset 20. On n'est pas à Jérusalem, on n'est pas dans le temple, mais le peuple va adorer Dieu. C'est au moment de la présentation de l'offrande, verset 20, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les eaux vont se mettre à couler. Tout le pays est rempli d'eau, une eau qui vient d'Édom. Et Édom est un désert, verset 8. Hein. Tout le pays est rempli d'eau. Et là, on voit qu'il y a vraiment... Oui, tout le pays est rempli d'eau. Les eaux qui vont représenter le salut pour Israël vont entraîner la destruction pour les ennemis d'Israël, pour les Moabites. Les uns vont être abreuvés, Israël, les autres asséchés, Moab. Alors en ce moment, on traverse une période de sécheresse, il y en a de plus en plus, n'ayons pas peur. Évidemment, ce n'est pas facile de supporter, surtout pour les nourrissons, les personnes âgées. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors, Israël est donc abreuvé. Et les Moabites, l'armée des Moabites, ils se tiennent sur la frontière. Ils ont appris que les trois rois montaient contre eux. Et au matin, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient pas de l'eau, ils voient du sang. Ils voient du sang à la place de l'eau en face d'eux. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que les trois rois, les armées des trois rois se sont entretuées. Et donc, voyant le sang, ils ont pensé qu'ils se sont entretués, ils vont marcher vers le camp d'Israël. Et Israël, bien sûr, Dieu est avec Israël. Israël va les battre à plate couture. Les Moabites s'enfuient, Israël va passer la frontière et va détruire le pays des Moabites, selon la prophétie du verset 19. Tout s'accomplit à la lettre. Alors, Moab, c'était l'ennemi. L'ennemi, il s'était réveillé et s'était révolté. L'ennemi a été vaincu par Joram et la nation d'Israël a été sauvée. Grâce à qui? Grâce au vrai Dieu et son serviteur Élisée, sans oublier le roi Josaphat. C'est Josaphat qui a recherché l'Éternel, pas les trois rois. Et cette fois, dans ce récit, eh bien, l'issue, elle est meilleure que lors de la bataille avec les Syriens, où Akab avait perdu la vie. Le roi Akab était mort à cette occasion. Et Josaphat s'en était tiré de façon miraculeuse. Ici, ça se passe mieux. Josaphat s'en tire encore. Est-ce qu'il a compris la leçon cette fois? En tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu garde son alliance. Il est fidèle. Il est fidèle. Il garde son alliance avec le roi de Juda. C'est de là que sortira le Messie. Alors, plus près de nous maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il vous est arrivé que quelqu'un veuille vous prendre avec lui ou elle pour faire une alliance? Que faire lorsque vous êtes sollicité par une personne qui vous demande de faire alliance avec elle et qui manifestement a causé du tort à beaucoup de personnes? Alors, on est chrétien, on va avoir un bon témoignage. Mais il y a certaines personnes dont il vaut mieux s'éloigner. Jésus lui-même prenait ses distances avec les pharisiens. Il y a certaines personnes dont il vaut mieux s'éloigner, même si vous pensez qu'à votre contact, elle peut changer. Si vous vous apercevez que cette personne a une mauvaise influence sur vous, alors prenez vos distances, sans culpabiliser. Sans culpabiliser. Voici deux conseils de s'éloigner qu'on trouve dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il y a un deuxième avertissement très clair dans 2 Corinthiens. Attention à ne pas faire alliance avec les idolâtres qui rejettent Dieu consciemment et délibérément. Et je vous lirai ce passage dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Ça s'adresse à des chrétiens, ça s'adresse à nous. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Par quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc parfois il vaut mieux s'éloigner. Et le Seigneur nous donnera le discernement, savoir si il faut rester ou s'il faut s'éloigner. Il y a des cas où on n'a pas le choix. On est obligé d'accepter la présence de telle personne. Eh bien, il y a une attitude. Si vous n'avez pas le choix d'accepter la présence d'une personne qui a causé beaucoup de tort, eh bien, bien sûr, vous pouvez prier pour cette personne, que le Seigneur la change. Vous pouvez espérer que le Seigneur la change, à condition de vous protéger. Protégez votre cœur, votre esprit. Vous êtes peut-être la seule personne chrétienne là où Dieu vous a placé pour être sa lumière. Mais il vous faut vous protéger. si vous êtes amené à travailler de près avec une personne qui a causé des torts à beaucoup de personnes, et vous le voyez. Comment se protéger? En nous rappelant que la victoire n'est possible qu'avec Dieu, en passant du temps à ses pieds, jour après jour. La question qui se pose, c'est qui influence qui? Est-ce que c'est le chrétien qui va influencer la personne de mauvaise influence, ou c'est le contraire qui peut aussi se produire? C'est la question qu'on a tous à se poser, n'est-ce pas? Élisée, il était prêt à ignorer le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Il n'a pas cherché à combattre les idoles du roi d'Israël. Ça, c'était le faux combat. Il n'a pas cherché. Et ça aurait été du temps perdu, du temps perdu. Élisée, il a accepté uniquement à cause de la présence de Josaphat, Josaphat qui préférait travailler au salut d'Israël. C'est uniquement pour ça que Élisée a accepté. Alors pour nous, ne nous trompons pas de combat pour ne pas perdre notre temps. Ne nous trompons pas non plus d'ennemis, mais plutôt, et c'est ça la solution, plutôt concentrons-nous, sans nous laisser distraire, sur notre mission de chrétien. Quelle est-elle votre mission? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne nous laissons pas détourner, frères et sœurs, de notre appel de briller dans ce monde. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut stopper l'œuvre de Dieu. Et il est rusé. Il est rusé. Il est rusé. Comment se protéger, que vous soyez dans un travail séculier, que vous soyez dans le ministère, comment se protéger contre ces manœuvres? Eh bien, en vous concentrant sur votre travail, sur votre mission, sans vous laisser vous en détourner. Ne cherchez pas à changer la personne. Ne cherchez pas à combattre tous ses travers. Remettons-les plutôt à Dieu. Parce que sinon, ça serait du temps perdu. Et ça serait de l'énergie perdue. Et ça peut être très fatigant. Vous avez remarqué, Israël, il a vaincu Moab. Et Israël a passé la frontière pour avoir la victoire sur tout le pays de Moab. L'Église, elle a aussi passé les frontières. L'Église a passé les frontières des pays pour apporter quoi? Pour y apporter l'Évangile. Cette fois, l'Évangile. L'Évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, la fin, effectivement, elle est triste. Pour le roi de Moab, en tout cas. Mais pas seulement. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, verset 26, eh bien, qu'est-ce qu'il essaie de faire? L'ultime tentative, il essaie de sauver sa vie avec son armée. Il essaye avec 700 hommes de se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Probablement pour en faire son allié, parce qu'il y a des fois où Moab et Édom étaient amis. Certainement qu'il a cherché, à s'en faire son allié, mais en vain, ça n'a pas marché. Alors, dernier recours pour lui, qu'est-ce qu'il fait pour être délivré? Puisqu'il n'a pas trouvé de soutien humain, le roi de Moab fait quelque chose d'horrible. Il sacrifie en holocauste, donc c'est un sacrifice, hein. Il sacrifie son fils premier-né qui devait régner à sa place. Mais en vain, en vain. Qu'est-ce que ça a produit? Une grande indignation des Israélites. Les Israélites qui se sont éloignés du roi de Moab et sont retournés en Israël. On en arrive à mon troisième point, voyons maintenant le bon sacrifice, le sacrifice suffisant qui nous donne la victoire sur le mal. Clairement, Moab, il représente le péché. Le péché qui se réveille suite à une brèche idolâtre que l'idolâtrie a ouverte. Quand on met quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le péché se réveille, il se révolte, il veut reprendre vie. Et rappelons-nous, le péché n'est jamais satisfait, il en veut toujours plus. Le péché réclame son dû. Il cherche des appuis pour mieux se répandre. Un auteur, Gary Thomas, a dit ceci. Il a dit, le mal est prosélyte. Il cherche à recruter d'autres personnes pour répandre sa toxicité. Fin de citation. S'il ne trouve pas d'appui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va jusqu'à sacrifier les autres, jusqu'à sacrifier son propre enfant. Un texte qui nous apprend que l'ennemi peut aussi faire des sacrifices. Il peut aussi donner des choses qui lui coûtent, qui coûtent, mais pas pour se rapprocher de Dieu, pour échapper à Dieu. Alors ce texte nous rappelle qu'il nous faut, combattre le mal. Je précise, il nous faut combattre le mal, pas les personnes. Il nous faut combattre le mal, mais pas avec nos propres forces. Ni par des alliances humaines, c'est vain. Ni avec des armes ou des moyens humains, c'est encore vain. Mais il nous faut le combattre avec les armes de Dieu, qui sont quoi ? La parole de Dieu et la prière, comme on l'a dit. Si le roi de Moab a sacrifié son propre fils pour échapper à Dieu, eh bien Dieu, lui, il a offert son fils unique, Jésus, avec son accord, en sacrifice, pour notre pardon et notre délivrance, pour nous délivrer du mal. Jean 3,16, que vous connaissez tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jésus-Christ, fils de Dieu, Dieu lui-même, a crucifié le péché, notre péché, dans sa chair, en se sacrifiant lui-même par amour pour nous. Et contrairement au fils du roi de Moab, le fils de Dieu, lui, il est ressuscité. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous faisons alliance avec Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même. Et alors, nous pouvons nous regarder, et c'est comme cela que nous devons nous regarder, nous pouvons et nous devons nous regarder comme étant morts au péché. Le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur nous, ni le dessus. Jésus a obtenu la victoire totale sur le péché pour nous. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous n'avons plus à combattre le péché. Nous sommes dans un combat, frères et sœurs. Nous avons à combattre le péché, mais pas par nos propres forces. Nous avons à le combattre avec celui qui a obtenu la victoire pour nous, c'est-à-dire avec Jésus, qui nous donne toute grâce dont nous avons besoin dans le combat. Le sang de Jésus. Si le sang de Jésus versé par son sacrifice représente notre salut, le salut pour les croyants, le sang de Jésus représente le jugement pour les incroyants. Comme le sang a été un jugement pour les Moabites. Et je dirai les paroles de Jésus en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 8 à 10. Et quand il sera venu, donc l'Esprit de vérité, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le sang, moyen de salut pour les croyants. Jugement pour les non-croyants. Comme Dieu a prodigué de l'eau aux Israélites, Jésus, il est l'eau vive qui désaltère, et qui désaltère parfaitement, qui désaltère tous ceux qui viennent à lui pour être pardonnés. Il suffit de lui faire confiance, de lui faire confiance, comme il fallait qu'Israël fasse confiance à Dieu pour avoir de l'eau. C'est toujours une question de foi. Et voici ce que dit Jésus, justement, sur il est l'eau, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que cette eau, non seulement elle est pour nous, mais elle est tellement puissante, elle devient une source qui va abreuver les autres, de notre entourage, famille, travail, amis. Un autre verset de l'évangile de Jean, 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, dit Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, il y a des méditations quotidiennes que nous lisons avec Brigitte, on lit la bonne semence, même après des années de vie chrétienne, ça nous nourrit toujours autant. Il y en a une autre qui s'appelle « Sa parole pour aujourd'hui ». Ils affirment que, ça m'a frappé, mais je crois qu'ils ont leur source, Ils affirment que sur 10 personnes qui répondent à l'appel du Christ, une seule est toujours à son service 5 ans plus tard. Sur 10 personnes, 5 ans plus tard, une seule est toujours à son service. Alors ça veut dire que nous avons besoin de nous protéger. De nous protéger contre la pollution spirituelle. Nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'être lavés quand ? Une fois par semaine ? Non, chaque jour. Dans cette eau vive qu'est Jésus. Et pas seulement immergés, pas seulement la douche matinale. Nous avons besoin d'être plongés dans cette eau vive, jour après jour. Parce que cette eau, c'est une eau qui lave et qui purifie. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 26. Elle lave et elle purifie. La parole. Nous lisons verset 12 de notre texte, « La parole de Dieu était avec Élisée. Et à ses disciples et à nous, Jésus dit, « Vous êtes propres à cause de la parole. » Jean 15, verset 3. Si le péché vous éloigne de la parole vous éloignera du péché. Et elle nous dira comment faire dans des situations difficiles. Amen, je vais prier. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, parce que l'accès est ouvert, Seigneur, tu l'as ouvert par ton propre sang. Nous pouvons venir, Seigneur, à ton trône de clarté, toi qui es l'eau vive, toi qui nous abreuves, toi qui nous as fait des promesses. Oui, Seigneur, rappelle-nous que tu as fait de nous une source d'eau vive, Seigneur, que nous laissions couler de notre vie cette eau vive qui vient de toi, Seigneur, pour nous abreuver déjà nous et aussi les autres que tu mets sur notre route, Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tes promesses sont là, elles sont dans ta parole pour nous. Ta parole est éternelle, Seigneur. Que nous nous rappelions, Seigneur, chacun pour notre vie. Tu sais ce que chacun nous traversons, aussi bien les joies que les épreuves. Donne-nous de voir les épreuves comme des examens à réussir avec toi, Seigneur, quand tu mets des épreuves sur notre route, et à te faire confiance, Seigneur. Et donne-nous de voir aussi les victoires que tu nous donnes, Seigneur, même les petites, pour continuer de progresser avec toi. Merci, Père. Tu sais comment nous encourager, Seigneur, quand nous en avons besoin. Alors oui, Seigneur, qu'on ne se trompe pas d'ennemis, quand nous sommes dans des situations difficiles où nous ne voyons plus clair, mais que nous ayons toujours ce désir de venir à toi, et toi, tu ne nous déçois pas. Tu nous gardes, Seigneur, tu nous éclaires, tu nous abreuves. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître lorsque nous devons... Tu nous appelles à témoigner de ta personne, Seigneur, lorsque nous avons à rester avec telle ou telle personne, et lorsque nous avons à nous éloigner. Seigneur, nous avons besoin de ton discernement. Seigneur, tu veux sauver et tu peux nous utiliser comme tu peux utiliser quelqu'un d'autre. Et Seigneur, donne-nous de nous protéger aussi avec ta parole et en venant à toi. Merci Père de veiller sur nos cœurs, sur notre esprit. Veuille, Seigneur, avoir la première place, Seigneur. Et identifier les idoles du cœur qui te font de l'ombre, Seigneur, et aller à les chasser. Au nom de Jésus. Amen. Amen.